Allô Marianne?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, je vous appelle Marianne hein, parce que j'ai pas un très bon accent anglais, mais sinon, nous avons le plaisir donc aujourd'hui sur Radio Couleur Chartreuse de parler de Colline Marianne, c'est comme ça que vous dites?
Oui, exactement,
Ah,
exactement. Je
super.
suis française, donc on le prononce à la française, hein, pas
Bon,
de souci.
non, parce que là, on est au fin fond de la Chartreuse, donc c'est pour ça. Et donc, vous allez vous produire sur la scène du Festival du Grand Son le samedi 21 juillet.
Oui,
Alors,
tout à fait.
oui, est-ce que vous pouvez expliquer qui vous êtes? Parce que j'ai vu que vous avez commencé de façon assez originale avec la musique médiévale. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Alors, ça, c'est mon petit pitch de vente pour originaliser un petit peu ma bio. En fait, j'ai pas vraiment commencé par la musique médiévale. J'ai commencé à me professionnaliser quand je suis allée à l'université, en fait.
Ah oui.
Et à l'université, il se trouve que j'avais un cursus qui était particulièrement orienté sur les musiques médiévales, ce qui était très intéressant par ailleurs, mais qui ne correspondait pas tout à fait à moi, ce dont j'avais envie d'arriver, à ma conception d'une musique vibrante et moderne, quoi.
Oui, parce qu'en fait, c'est drôle d'être passé à de la musique médiévale justement à la musique ultra moderne comme ce que vous faites.
Bah, disons que. Je suis pas passée de l'un à l'autre en fait. J'ai fait cohabiter différentes pratiques et différentes expériences musicales. J'ai plutôt commencé avec la guitare acoustique en fait. Mais
D'accord.
une chose en entraînant une autre, j'ai ouvert mon esprit à d'autres choses. Et puis en grandissant, on va en fait en boîte de nuit. Et c'est surtout là que j'ai découvert la puissance et la magie de la musique électronique, mais c'est vrai qu'il y a aussi eu une part d'intellectualisation à l'université, parce qu'en parallèle de la musique médiévale, j'avais aussi des cours de musique concrète, des cours d'histoire de la musique du XXe, etc. Donc en fait, c'est un parcours, disons que j'ai eu une culture assez riche, et ce que j'en ressors, voilà, c'est plutôt orienté musique électronique.
Et donc, vous n'avez pas eu envie de devenir prof d'histoire finalement?
Non, pas
Oui.
vraiment.
Je dis ça
Pas
parce que
vraiment.
c'est ce qu'on dit de vous, hein. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à recadrer tout ça. Et donc, après, vous avez rejoint les soirées lyonnaises à La Chatte où vous êtes devenue résidente, c'est-à-dire pendant 2 ans. Comment ça
Ouais,
s'est
alors en
passé?
fait, La Chatte, c'était une soirée lesbienne organisée par une amie à moi. Et on n'avait pas beaucoup de moyens ni beaucoup d'artistes à inviter au tout début. Et donc, pour un peu remplir la programmation, je me suis mis dedans. Et l'idée, c'était de passer des musiques qui font danser. Et en fait, ça a été assez instructif et révélateur, je pense, de ma personnalité scénique. Enfin, j'ai beaucoup aimé en fait avoir ce rôle de pouvoir décider de ce qui se passe musicalement dans la soirée. Ça m'a paru très très intéressant et très très jouissif en fait, même de pouvoir avoir ce contrôle sur le public. Et voilà. Et comme ça m'a plu et que j'ai été assez applaudie et tout ça, j'ai continué dans cette vague-là en tant que DJ. Et voilà, enfin, à ce moment-là, ça s'arrêtait un petit peu là parce que je travaillais à côté, j'avais pas énormément de temps en fait pour de la création musicale.
Et c'est d'autant plus incroyable que vous aviez jamais touché à des platines de votre vie, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai. En fait, j'ai mis les musiques avec mon ordinateur, je mixais pas avec des platines à ce moment-là. Donc j'avais juste un logiciel qui permettait qu'elles se superposent pour pas qu'il y ait de coupures dans la musique. Mais oui, c'est vrai, j'avais pas du tout. Mais même jusqu'à assez récemment, au final, ça fait peut-être 2 ans que je suis à l'aise sur des platines vinyles et numériques. Mais au final, tout ce temps, j'ai plutôt été sur des ordinateurs pour passer du son, ouais, effectivement.
Et donc, très rapidement, vous êtes devenue une actrice incontournable des soirées queer techno. C'est vrai, ça aussi?
Ah, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est vrai dans la mesure où à Lyon, nous étions peu d'artistes féminines techno déjà. Bon, on existe, mais voilà, on était quelques représentantes. Et puis les autres n'étaient pas forcément dans la sphère LGBT, justement. Elles étaient plutôt dans la sphère techno standard, sans. Avec moins d'enjeux politiques, on va dire, et plus d'orientation festive. Et il se trouve que moi, étant moi-même lesbienne, participant à des soirées lesbiennes et ayant beaucoup d'amis dans cette sphère-là, c'est comme ça que mon réseau s'est créé, en fait.
D'accord. Et vous avez été aussi séduite depuis longtemps par les logiciels de production. Vous avez réalisé donc 1900X. Oui,
si
d'accord. Donc ça, c'était une autoproduction.
Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé assez tôt à bidouiller des sons sur un ordinateur. Je crois que c'était vers 14 ans. Il y avait un ordi Mac chez moi et par défaut, vous avez ce logiciel qui s'appelle GarageBand qui est installé dessus et qui est très très simple à prendre en main et qui permet de superposer des pistes musicales que vous enregistrez ou qui sont des boucles déjà présentes dans le logiciel. En quelques minutes, en fait, on peut créer des morceaux. Et donc, moi, j'ai commencé très simplement en faisant ça. C'était comme un jeu vidéo presque, hein. C'était hyper ludique. Et en fait, le temps évoluant et ma pratique s'enrichissant et mon niveau musical, etc., c'est un outil qui m'a toujours accompagnée, en fait. Même pour mes cours, je m'en servais pour prendre des notes, superposer des machins, etc. Et j'ai toujours fait de la musique, en fait, depuis cette époque-là, mais j'avais jamais rien sorti, entre guillemets, j'avais jamais rien exposé de manière aussi large, parce que là, l'EP a quand même été diffusé sur les plateformes, etc. Ça n'avait jamais été le cas, donc c'était très cool pour moi. Mais c'est vrai que oui, c'est une autoproduction de A à Z, à part pour le mastering.
Et ensuite, vous avez quitté Lyon donc, pour rejoindre la capitale. C'était un choix ou est-ce que c'était obligatoire pour faire carrière?
Non, ça relevait plutôt d'un choix personnel. Mmh. Mais c'est vrai que c'est aussi pertinent d'être à Paris. Parce qu'en fait, en étant à Paris, on est beaucoup plus susceptible de rencontrer un peu par hasard ou par réseau des personnes qui sont plus influentes, sans faire l'apologie du pistonnage, etc. Dans ce milieu-là, c'est comme ça que ça marche, c'est par affinité, par amitié. Donc, c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer des personnes sur le plan vraiment affectif et amical, qui sont des personnes qui sont influentes et bien placées, qui organisent des soirées, c'est sûr que c'est plus facile. Après, comme je le dis, j'ai quitté Lyon pour des raisons plus personnelles, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup cette ville. J'y retourne deux fois par mois minimum, peut-être plus. D'une part parce que j'ai beaucoup d'amis et de proches là-bas, mais aussi parce que je continue d'être bookée dans cette ville, en fait.
Ah oui. Et est-ce que c'est vrai que vous êtes capable de faire danser n'importe qui avec un slip kangourou sur des talons de 20 cm? Alors avec moi, c'est pas gagné. Hein.
Alors, ça c'est une question difficile.
Oui.
Parce que je pense que n'importe qui peut être entraîné par la musique, mais aussi n'importe qui peut dire « j'aime pas l'électro » et à partir de ce moment-là, ça va être difficile.
D'accord.
Mais je pense que je suis pas intéressée par la techno pure et l'électro pure. J'ai toujours envie de mélanger tout et donc il y a un truc qui marche très bien, c'est quand on rajoute des rythmes brésiliens ou des rythmes afro dans une musique électro. En général, ça fait mouche. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça passe très bien en général.
Oui. Et donc vous avez participé aussi au festival intérieur queer au sucre. Vous avez joué pour Garçon Sauvage et Et sinon, maintenant, on va parler de votre projet musical audiovisuel en binôme. C'est plus un projet d'ailleurs, parce que c'est d'actualité. Ce que vous voulez, c'est plus produire que faire de la scène, finalement, d'après ce que vous avez dit.
Alors, en fait, mon projet donc avec Cassie, c'est de ça que vous parlez.
Oui, c'est de ça.
Mon projet solide, c'est un projet qui est un projet qui m'a permis d'aller vers le live, en fait. C'est-à-dire que je n'osais jamais jouer en live, c'est-à-dire en concert, hein, pas en DJ set du coup, sur scène. Et en fait, ce projet m'a permis de me lancer, parce que j'étais plus toute seule déjà, on était deux.
Oui.
Et surtout, il y a l'aspect visuel, donc qui est la pratique de Cassie, qui est du VJing, donc de mettre des vidéos. C'est-à-dire qu'elle mixe des images de vidéo exactement comme on mixerait de la musique. Mais le but est visuel, évidemment. Et en fait, ça m'a vachement aidée parce que je me suis dit, les gens vont avoir leur esprit détourné de la musique. Ils vont pas vraiment autant écouter s'il y a un truc très beau à voir. Et ça va être un truc qui va fonctionner ensemble. Moi, j'avais moins de pression par rapport à ça parce que c'est assez difficile, hein, de jouer. C'est comme un concert, il faut se lancer, quoi. Et en fait, ça m'a permis de me lancer dans cette pratique-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet Solide, il existe toujours, il est là. Mais avec Cassie, on a toutes les deux nos pratiques, chacune de notre côté. On s'est trouvé un moment où on avait besoin l'une de l'autre artistiquement. Et puis finalement, moi, j'aime beaucoup être seule, en fait, sur la scène aussi. J'aime avoir mon projet. Et Cassie, elle aime aussi avoir ses projets de son côté. Donc, c'est pas dit que le projet continuera, mais en tout cas, on est très amis et on continue de faire des choses en privé, ensemble, etc.
Mais c'est une super idée, ça, d'allier les yeux et les oreilles comme ça. Ça doit être magique.
Ouais, c'est le but, hein. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, on remarque aujourd'hui que dans plus en plus de scénographies, je pense à des artistes comme Rhône ou Chloé, par exemple, ou même il y a quelques mois, quelques années, Tilassine. Ce sont des artistes qui ne se produisent pas sans une scénographie lumineuse et même écran de projection. Ça se fait vraiment beaucoup de plus en plus, notamment dans les shows un peu de plus grande envergure. Et c'est magique, en fait. Ça accompagne la musique complètement. Ça devient un spectacle d'art total, presque.
Oui.
Il y a Cassie, elle a notamment eu la chance de faire un habillage visuel pour une artiste qui s'appelle Théodora à la Gaîté Lyrique à Paris. Et c'était incroyable parce que c'était une pièce qui était à 360 degrés, c'est-à-dire que c'est une pièce ronde en fait. Et c'était projeté en cercle autour de des gens, enfin c'était magnifique. On peut vraiment faire des choses très très belles avec un habillage vidéo, ça c'est sûr.
Et au Festival du Grand Son, vous aurez un écran ou quelque chose ? Non, c'est juste Colin Bergman.
Non, c'est pas prévu, pas prévu. Après, moi, c'est vrai que je me positionne plus trop là-dessus parce que je me concentre sur ma musique, mais c'est vrai que ce serait pertinent en fait d'amener toujours une clé USB avec un fichier vidéo qui fonctionne bien et voilà, et si la salle à disposition. Il y a ce problème-là aussi, c'est que la plupart du temps, les salles de musique sont pas équipées au top pour accueillir de la vidéo. Il faut que ce soit des salles qui aient aussi soit ce soit des grandes salles, soit que ce soit des salles qui accueillent aussi de la vidéoconférence ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Un petit club, par exemple, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Du coup, même si c'est quelque chose qui peut être artistiquement très intéressant, c'est aussi un peu contraignant sur le plan technique de devoir s'équiper de vidéo.
Et Cassie a dit qu'en fait, rien n'est vraiment calé à l'avance. Vous êtes beaucoup dans l'impro.
Ouais, alors ça, c'est très vrai pour ce projet Solide. C'est qu'on a toutes les deux... des outils musicaux et des outils visuels, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire à l'avance. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur l'impro. Après, on se connaît très bien et ça colle, il n'y a aucun problème. Mais oui, effectivement, c'est vrai. Ce projet, c'est plus de l'impro. C'était vraiment pour s'amuser, pour se faire plaisir.
Et donc, ce projet, il s'appelle Solide parce que apparemment, vous êtes des meufs en béton.
Exactement. En fait, on avait envie de montrer que la musique, l'électro, la vidéo, l'audiovisuel, la technicité n'appartiennent pas qu'aux hommes, parce que c'est un cliché assez répandu. Il y a quand même une énorme majorité de techniciens et de musiciens électro qui sont des hommes. On avait envie de montrer qu'on envoyait du lourd, quoi, qu'on était tout aussi capable et avoir une image un peu percutante et bousculer un petit peu tout ça.
Oui, quelque part, il y a l'espoir de montrer l'exemple aux plus jeunes que vous et leur prouver que c'est possible d'y arriver, même si on est une femme, si j'ai bien compris.
Ah bah ça c'est évident. J'ai lu quelque chose de très intéressant ce matin. C'est mon amie Flore Morfin, qui est enseignante de musique électronique, enseignante Ableton en fait, c'est un logiciel de production musicale à Lyon. C'est la seule femme française qui est certifiée enseignante Ableton. Elle a dit ce matin que tout au long de sa carrière d'enseignante, elle avait remarqué que quand les filles avaient une question à poser, elles disaient toujours « Ah, ma question va paraître stupide » ou « Je m'excuse de ma question, peut-être que j'ai mal compris ». Mais elles vont toujours se sentir très, très désolées de demander quelque chose, alors que majoritairement, les garçons sont moins complexés de poser des questions, se sentent moins bêtes ou illégitimes d'être là. Et c'est très très pertinent en fait sur l'image, je pense, que les filles et les femmes ont d'elles-mêmes sur leur capacité et sur ce qu'elles représentent et sur leur légitimité en tant que femmes en fait. Mais c'est vraiment une idée qui est un peu arriérée parce que les hommes n'utilisent pas leur pénis pour contrôler des tables de mixage, les hommes n'utilisent pas leur pénis pour conduire des avions, ils utilisent leurs mains et leur cervelle. Et tout ça, c'est égal, enfin, c'est complètement prouvé, donc il y a plus aucun souci par rapport à ça. Mais effectivement, moi, je fais ma pratique musicale parce que j'aime ça, mais c'est vrai que ça pourrait être, enfin, c'est vraiment bien si je fais rêver des jeunes filles et qu'elles se disent, waouh, trop cool, j'aimerais trop faire comme elles. C'est vrai que moi, quand j'ai vu plein d'artistes féminines, j'ai vu Chloé quand j'avais, je sais pas, 16 ou 17 ans, qui a été une révélation électro d'ailleurs. Je me disais, waouh, j'aimerais trop discuter avec elle et j'aimerais trop savoir comment elle en est arrivée là, parce qu'elle a plus de 35 ans, ça veut dire qu'il y a 20, il y a 15 ans, elle faisait déjà ça, mais c'est fou. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose que je découvrais. Et je pense que c'est très pertinent de représenter effectivement des femmes dans les festivals et dans les concerts.
Et est-ce que ça fait une différence pour vous quand le public est exclusivement féminin ? Est-ce que l'ambiance du coup est complètement différente ?
Non, alors moi pour le public c'est le public. Enfin, je veux dire, je suis là pour les gens, je suis pas là pour les femmes. Mmh. J'ai cette affinité particulière avec la gente féminine évidemment, mais quand il s'agit de faire la fête et de s'amuser, c'est pour tout le monde. Je veux dire, je fais pas de la musique pour les femmes, je fais de la musique pour tout le monde.
Mais est-ce que vous avez constaté que l'ambiance est différente ?
Alors, en tant que public, je trouve que l'ambiance est différente dans des soirées exclusivement féminines, dans le sens où on se sent un peu moins oppressé, je pense. Mais ça, c'est comme ça. Je veux dire.
Non, mais il y a des
Il
y a des études qui ont été faites qui montrent que dans les classes mixtes à l'école, et ben les filles automatiquement vont avoir des moins bonnes notes s'il y a des garçons dans la classe, comme si elles s'autorisaient pas à être performantes. Et c'est au niveau de l'inconscient.
On constate que, par exemple, les concours de mathématiques, les garçons qui vont se lancer, ils ont entre 13 et 14 de moyenne. Et les filles qui vont se lancer, elles ont toujours entre plus de 16 de moyenne. Parce que si elles ont moins que 16 de moyenne, elles ne se considèrent pas suffisamment bonnes, elles ne vont même pas essayer, en fait.
Mmh. Et est-ce que ça, est-ce que ça vous parle, le credo des féministes dans les années 70 qui disait « ne me libère pas, je m'en charge
» Oui, exactement. Je pense que le féminisme est autosuffisant, c'est-à-dire que... Si on permet aux hommes de libérer les femmes, ça veut dire que les femmes ne peuvent pas se libérer elles-mêmes et donc sont pas capables, donc ont besoin des hommes. Mmh. Et évidemment, tout le monde, on a tous besoin les uns des autres, hein, y a aucun souci là-dessus.
Oui.
Mais c'est vrai que les luttes féministes doivent venir des femmes, comme les luttes antiracistes ne peuvent pas venir des blancs. C'est pas aux blancs de dire aux noirs ce qui est raciste ou ce qui ne l'est pas. C'est aux noirs de dire ça c'est raciste et aux blancs d'écouter. Mmh. Pour moi, c'est la même chose en fait. Quand les hommes disent « non, mais ça, c'est pas sexiste, c'est un compliment », c'est pas toi qui reçois le truc, donc c'est à moi de te dire ce que tu fais là, ça m'agresse, et donc arrête de le faire, et voilà.
Et est-ce qu'il est vrai que vous avez dit que le futur serait sûrement féminin ?
Non, je crois pas avoir dit ça, mais par contre, j'ai joué à une soirée qui s'appelait comme ça.
Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que le futur sera moins sexiste.
D'accord.
Je pense que le futur, ça progresse tout doucement, mais ça progresse. Je pense qu'on arrive quand même. Moi, j'arrive à avoir vraiment des copines qui travaillent dans tous les domaines des couches de la société, ou presque. Bon, j'ai pas d'amis pilotes, mais j'ai pas non plus d'amis garçons pilotes. Donc voilà. Je pense qu'on va vers beaucoup d'égalité. Mais qu'il faut, enfin, il y a une lutte, hein, bien sûr, une lutte de chaque instant pour ne pas céder ses droits. Je pense pas que le futur sera féminin. Je pense juste que les femmes vont occuper l'espace qu'elles devraient occuper depuis toujours, en fait.
Voilà. Et sinon, deux derniers petits renseignements à votre sujet. Il paraît que vous aimez pas les gens qui touchent leurs dents avec la fourchette et que vous regardez « Faites entrer l'accusé pour dormir
». Quelle sorte d'information, c'est drôle. Oui, c'est vrai pour les deux.
D'accord, super, tout juste. Et sinon, il va falloir qu'on arrête. Donc, eh ben, on se retrouve avec plaisir le jeudi 21, c'est bien ça ?
Ouais.
Au Festival du Grand Son à Saint-Pierre de Chartreuse. Et je vous souhaite une très, très bonne continuation et bravo pour ce que vous faites.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci, à bientôt. Et on écoute une de vos chansons d'ailleurs qui s'appelle, je ne l'ai plus en tête, Lucas, un peu d'aide. Comment ça s'appelle? Je le savais, voilà.